Aujourd'hui, lundi 5 février 1996, deuxième cours sur Shir HaShirim de Rav Eman, chez M. et Mme Bétan, 25 rue de la Pompe, à Paris.
Le Réach Shemanecha Tovim, Shemen Tourak Shemecha, Alken Alamota Yvoucha. Le Réach Shemanecha Tovim. On va essayer de traduire littéralement. Puis ensuite, on essaiera de voir ce que ça veut dire. Le Réach à l'odeur. Shemanecha. Shemen Tov en hébreu veut dire le parfum. Donc en français, on voudrait dire au parfum du parfum. Comme c'est le même mot. On va quand même traduire à l'odeur. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur ?
Je cherche.
Alors, le Réach, on va traduire à l'odeur. Ou au parfum. Shemanecha Tovim. Shemen Tov en hébreu veut dire le parfum. De tes parfums. Shemen. Le parfum. Tourak. Vient du mot le horik, du mot rek, qui veut dire vider. Shemen Tourak Shemecha. C'est du parfum que l'on verse que ton nom. Shemecha, ton nom. Alken, c'est pourquoi. Alamot, les jeunes femmes ou les jeunes filles. Ahevucha, ton aimé. D'accord ? Ça ne veut pas dire grand chose. On va essayer de répéter quand même la traduction littérale. Le Réach, au parfum ou à l'odeur, Shemanecha Tovim, de tes parfums. Shemen Tourak Shemecha, on va inverser déjà. C'est comme si c'est marqué Shemecha Shemen Tourak. Ton nom est un parfum que l'on transverse ou que l'on vide ou que l'on verse. Alken, c'est pourquoi. Alamot, Elem veut dire un jeune homme, Alma, une jeune femme ou une jeune fille, Alamot Aevucha, t'aimeront, t'ont aimé. Alors, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Si on prend Rashi, Rashi dit, Shem Tov Nikra Al Shem Shemen Tov. Vous savez qu'il y a un verset du roi Salomon qui est connu, Tov Shem Mi Shemen Tov. C'est mieux le nom que le parfum. On appelle souvent la renommée un parfum. C'est ça qu'on va traduire le parfum et pas l'odeur. Parce qu'il s'agit de la renommée. Donc Rashi dit, le Réach Shemanecha Tovim, il dit Rashi, Sheirichu Ba'em Apsearet Asher Shamu Shimacha Atov. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, est comparé à un parfum qui est versé, c'est pour ça qu'il est marqué Shemen Tourak Shemecha, ton nom c'est comme un parfum que l'on verse, d'où est-ce qu'on le sait, le Réach Shemanecha Tovim. C'est comme si vous deviez apprendre la deuxième proposition du verset avant la première. Alors on va essayer. Shemen Tourak Shemecha, ton nom et comme un parfum que l'on verse, le Réach Shemanecha Tovim. Ça, c'est au parfum de ce que tu as transmis au Sinaï. Alken, c'est pourquoi. Alamot, les jeunes filles. Aevucha, ton aimé. Voilà la traduction la plus littérale qu'on peut donner du verset. Maintenant, on va essayer d'étudier les mots. Shemen, en hébreu, veut dire le parfum. Mais en hébreu, Shemen veut dire l'extrait. Par extension, ça veut dire l'huile. Pourquoi ? Parce que Shemen, c'est la contraction du mot min, de Shemin, qui vient de Shemin, qui vient de ce que j'ai pris de. Donc l'huile et le parfum s'appelleront Shemen. En français, on dirait « Shemen » veut dire « l'extrait de ». D'accord ?« Shemen Tourak Shemecha ».« Shemen Tourak », c'est comme le parfum que l'on verse, qui dégage son odeur. Tourak vient du mot le horik en hébreu, qui est le mot rek. Rek en hébreu, ça veut dire vide, sans. Rek veut dire là où il n'y a pas. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de chaleur, c'est que nous mesurons le froid avec le négatif aussi. Mais en hébreu, on mesure le froid par le fait qu'il n'y a pas de chaleur. Comment on dit froid? K. Changez les lettres. Rek. Vous voyez? Rak aussi, le mot rak, qui veut dire seulement, rien d'autre. Le horik, versé. D'accord? Alken. C'est pourquoi Alamot, Alma veut dire une jeune fille. Faites très attention, parce que vous trouverez dans vos traductions la traduction chrétienne. Et c'est là qu'a commencé la grande discussion, ou enfin l'invention, qui a donné lieu à la discussion, sur le verset dans Isaïe, Hine Alma Hara Azot. Si on traduit le verset, ça veut dire Hine voici, Alma une jeune fille, ou une jeune femme, Hara, enceinte, Azot, celle-ci. Les chrétiens l'ont traduit, Hine voici, Alma, une vierge, Hara, enceinte, Azot, celle-ci. En hébreu, Alma ne veut pas dire vierge ou pas vierge, Alma veut dire jeune. Ça vient du mot Elem, c'est la même chose pour un jeune homme. À partir de l'adolescence, tant qu'on reste jeune, on s'appelle Elem. Elem veut dire caché, ou ce qui n'est pas découvert, ce qui est recouvert. Le ha'alim, ça veut dire caché. Mit'alem, quelqu'un qui se cache. D'accord? C'est pourquoi, dit le Ramban, Nachmanide, le monde s'appelle Olam. Parce que le monde cache la présence divine. Les lois de la nature ont été faites d'une façon immuable. On les appelle le Olam, au point qu'en hébreu, par extension, le mot monde veut dire toujours. Le Olam, ça veut dire pour toujours, alors que Olam ne veut pas du tout dire toujours. Olam veut dire le monde. Mais quelle est notre référence qui peut être plus toujours que nous? C'est le monde. Donc au lieu de dire aussi vieux que le monde, ou qui durera aussi longtemps que le monde, on dit Olam. Le Olam ou l'Olme Almaya, à tout jamais. Mais en vérité, le mot Olam veut dire le monde. Olam vient du mot Elem qui veut dire caché. Lorsqu'un homme est encore un adolescent, ou lorsqu'il est jeune, ses qualités ne sont pas encore dévoilées, alors on l'appelle Elem, ça veut dire caché, enfoui. Alken Alamot, ça veut donc dire des jeunes filles. On va continuer la traduction de Rashi. Le Reach Shemanecha Tovim, c'est donc après que Dieu soit apparu sur le mont Sinaï et enseigné la Torah au peuple juif, Shemen Turak Shemecha, le nom de Dieu s'est répandu comme du parfum. Alken, c'est pourquoi Alamot, on verra qu'il y a plusieurs traductions. Les jeunes, que veut dire les jeunes? Rashi traduit, entre autres, parce qu'il a trouvé dans le Midrash, les jeunes, ça veut dire les convertis. Ceux qui se sont associés au peuple juif après le don de la Torah. Ça s'appelle Alamot, les nouveaux venus, les jeunes. Aïvoucha, aimé, ça veut dire attaché. Ça, c'est la traduction d'après Rashi. Nous devons comprendre que c'est la suite du verset précédent, où on avait dit Ishakini min shikot piu kitovim dodecha miyai, que le peuple juif se remémore le don du Sinaï, où c'est Dieu lui-même, et non par l'écriture, que la Torah a été transmise au peuple juif par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. On avait dit les deux premiers commandements ou les deux premières d'Ibrot, paroles, pas par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, que la première relation que le peuple juif a avec Dieu, elle est basée sur le fait du Sinaï. Et que le peuple juif vit sur cette relation-là. C'était ça le sens. Si Shakin imin Shikot Piu, les baisers de ta bouche, ça veut dire le contact oral qui existe avec la parole divine. Et Tovim Dodeh Hamiyahin, on avait dit que c'est la Torah doit être interprétée par les Chachamim. Et c'était ça, Dodeh Hamiyahin, que Yahin, c'est, d'après une interprétation, ce sont les Chachamim. Maintenant, le verset continue et il essaye d'expliquer que le retentissement de la Torah n'est pas un retentissement qui est exclusif au peuple juif. Donc il y a deux choses. Il y a le Rear Shemanecha Tovim Shemen Turak Shemecha. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu, Shem. On va essayer de voir en quoi c'est restreint au niveau du peuple juif, mais que ça déborde vers l'extérieur et qu'à cause de ça, le nom juif peut être attaché ou peut être attiré vers quelque chose qui, bien qu'il soit donné au peuple juif, le parfum peut en être universel. Shemen Tov, lorsque l'on parle de ce qui est extrait, on va traduire l'huile ou le parfum. Le Midrash dit, le Rear Shemanecha Tovim, ce sont les paroles de la Torah. Le problème, c'est pourquoi est-ce que c'est comparé à Shemen Atov. Vous savez que Shemen, c'est obtenu, comme ça dit le Midrash, après une longue préparation. Quelque chose, un fruit, peut sentir très mauvais. Une fleur peut ne pas sentir bonne. Bon, mais à partir du moment où on va commencer à extraire, le parfum, lui, peut se dégager et il va être tout à fait différent de l'extérieur. Il en est de même, non seulement de la Torah, mais de la pratique des mitzvot. Je vais vous dire pourquoi. Ici, on touche un problème qui est un problème difficile. Mais on va essayer de voir comment on peut le traiter à partir de ce texte-là. Prenez de nouveau le mot Olam. On a dit Olam, ça veut dire ce qui cache. Le monde est là pour cacher la présence divine. C'est-à-dire, le monde dans son sens de ce qui est immuable, ce qui est fixe. C'est pour ça que par extension, ça veut dire toujours. Aurait pu être créé d'une façon différente. On aurait pu percevoir la volonté divine qui, d'après la Torah, s'exerce à chaque instant. Parce que sans volonté divine, le monde ne tient pas. Rien ne peut échapper à la volonté divine. Pourquoi est-ce que je ne l'aperçois pas, moi, dans le monde? Au contraire, plus je vais étudier la nature, et plus je vais découvrir des lois qui font que ces lois, à partir du moment où je les admets, vont me donner beaucoup plus de difficultés à pouvoir concevoir l'idée que rien ne tient sans la volonté divine. Quelqu'un qui ne sait pas comment marchent les choses. On va prendre un exemple. Edison, la première fois qu'il a montré une ampoule. On aurait pu parler de miracle, puisqu'on ne sait pas comment ça marche. Mais à partir du moment où il a démontré comment ça marchait, on est obligé de dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'extraordinaire, mais une utilisation d'une loi de la nature qu'on ne connaissait pas. Chaque fois que j'apprends un petit peu sur la nature, je suis obligé de le relier à un système qui fait que je me passe de l'idée de Dieu à chaque instant. C'est vrai dans l'élément naturel en tant que matière, c'est vrai dans l'histoire, dans la vie de tous les jours, dans tous les éléments qui me concernent. Chaque fois que je vais arriver à relier les choses dans leur contexte, je vais me sortir, moi, du phénomène. Ça marche pas dans mes affaires. Si je sais lire les pages roses du Figaro, je vois que ça marche pour personne. Donc je ne suis pas mis en cause personnellement. J'attrape la grippe. Je sais que le virus se propage de telle et telle façon. Et qu'à partir de tel moment, de telle date jusqu'à telle date, il y a la grippe. Ça ne me concerne plus. Je fais partie d'un phénomène. Si j'étudie tout et que j'arrive à cerner tous les éléments qui m'arrivent avec ce procédé-là, je ne vois plus aucune relation entre Dieu et moi d'abord, mais en plus entre l'événement et moi. Je suis un grain de poussière qui fait partie de plein de systèmes et je vais ignorer totalement un sens qui est autre que celui des lois que j'ai données. Pourquoi est-ce que je donnerais un sens à tel et tel événement? Puisque de toute façon, je vais étudier la nature psychologique des personnes qui ont été engagées dans cet événement. Je vais étudier tous les systèmes qui peuvent me faire comprendre comment marchent les choses. Et à ce moment-là, je n'existe plus, moi, en tant qu'individu concerné par un événement. Je n'existe que comme quelqu'un qui est englobé dans différents systèmes. La Torah veut le contraire. La Torah nous dit... Il n'est personne qui puisse échapper à la volonté divine. Il n'est pas un instant qui puisse échapper à la volonté divine. Il n'est pas un instant dans ta vie qui ne te concerne pas, où tu peux trouver en quoi les événements te concernent. Donc on vient avec un système qui est radicalement le contraire. Ça aurait été plus facile si on avait laissé percer un mystère ou des inconnus à travers tous ces systèmes que l'on peut étudier dans l'histoire, dans la vie, dans la nature. C'est ça qu'explique le Ramban. Il y a une volonté de cacher. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, chaque fois que tu comprends quelque chose, chaque fois que tu découvres quelque chose, tu dois pouvoir penser que la volonté divine en est extérieure. Sinon, c'en est fait du libre-arbitre. Le but de la création du monde telle que nous la connaissons, il est de cacher, justement, cette relation avec Dieu que tu pourrais avoir naturellement pour te donner la position de celui qui doute et qui est maître de tous les choix. On a donné l'exemple suivant. Comment est-ce que même lorsque l'on fait le contraire de ce qui paraît être la volonté divine, on ira quand même dans son sens? Vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que il y a plus d'un milliard de Chinois, il y a plus de 5 milliards de personnes sur la planète, mais chaque fois que vous allez ouvrir un journal ou la télévision, on va vous parler des territoires occupés. Et tout le monde sait de quoi il s'agit. On n'a même plus besoin de dire Israël, on n'a pas besoin de parler de la Palestine, on n'a pas besoin de parler des Arabes. On vous parle un attentat dans les territoires occupés. Et le monde entier, depuis celui qui est en Chine dans son village, jusqu'à celui qui est à New York, tout le monde sait de quoi ça parle et tout le monde est concerné. Il y a quelque chose qui tourne autour du peuple juif et qui est troublant. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le problème, le juif c'est le bouc émissaire. Comment est-ce qu'on dévie les problèmes en créant d'autres problèmes? Mais ça c'est un fait. Ce fait il est relaté dans la Gomara, dans le traité d'Avodah Zara. Il est écrit là-bas qu'un jour toutes les nations seront jugées. Vont venir les Grecs, ils vont dire, nous avons créé des systèmes philosophiques formidables. Nous avons créé plein de choses. On a été des grands scientifiques, des grands philosophes. Vecholze loasinu ela bishvil Israël. Tout ça, nous ne l'avons fait que pour le peuple juif. Ok. Viennent les Romains, ils vont dire, on a construit des routes. On a construit des marchés. On a construit des aqueducs. Le Chol Zelo Asino et la Bichu d'Israël. Tout ça, on ne l'a fait que pour le peuple d'Israël. Chaque civilisation, chaque peuple vient avec toujours la même histoire. Chol Zelo Asino Bichu d'Israël. La Gemara dit ceci. Amar Laem Akoshbo. Voilà ce que Dieu leur dira. Shotim Shebaola. En français, on traduirait bête, imbécile. Le Tzorer Atzmechem Asitem. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Et il va commencer à démontrer que la philosophie, c'était pour ça. Les marchés, les aqueducs, c'était pour conquérir. Chaque chose, à quoi ça a servi, et que ça n'avait pas de relation du tout avec le peuple juif. Même Nabucodonosor va venir, et il va dire, moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le peuple juif. Là, les juifs interviennent, ils disent, c'est trop celui-là. Il est venu, il a détruit le temple. Il ne peut pas dire qu'il l'a fait pour le peuple juif. Et si c'était salutaire pour le peuple juif, ou ça devait être pour le peuple juif qu'il soit exilé, quand même, il ne peut pas dire qu'il l'a fait pour le peuple juif. Mais la réponse de Dieu telle que la relate la Gemara, elle est troublante. On dit, vous êtes bêtes, vous êtes des imbéciles. En vérité, il fallait dire, vous êtes des menteurs. Vous savez que vous n'avez pas fait pour Israël. Alors comment devant Dieu, imagine-t-on un dialogue en disant un mensonge? Et Dieu, au lieu de relever le mensonge, va dire, non, vous êtes bête, vous n'avez pas compris. Une des réponses qui se trouve dans un livre qui s'appelle le Chidush HaGriz à la Torah, elle est celle-ci. C'est qu'un jour, l'histoire va démontrer que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait effectivement pour le peuple juif. Pourquoi? C'est ce qui est marqué « Beni Bechori Israël ». Le peuple juif a une mission. Cette mission ne s'arrêtera jamais, n'a jamais été arrêtée. Et lorsqu'on pourra reconstruire, ou plutôt, on pourra restructurer, revoir l'histoire du monde, on verra que les événements ont eu toujours une source qui a un rapport avec le peuple juif. Seulement une fois que l'histoire est terminée, et que malgré vous, Dieu a écrit l'histoire par rapport au peuple juif, vous ne pouvez pas venir dire maintenant, vous voyez, on était les bons collaborateurs. Parce que ce que vous l'avez fait pour vous. Le retentissement et le fait que l'histoire a eu comme centralité le peuple juif, ça ne vous regarde pas puisque vous avez œuvré contre. Et ça a été fait malgré vous. C'est-à-dire que même celui qui fait le contraire de la volonté divine, il est récupéré par cette volonté divine. Il en reste qu'un jour, il va dire, mais tu vois bien, c'était ça la volonté divine. On va lui dire, mais toi, tu te tais. Shotim Shebaola. Toi, en vérité, tu viens avec un argument qui est fallacieux. Tu n'es pas un menteur, puisque c'est vrai que tu l'as fait pour Israël. Mais puisque, au moment où tu l'as fait, tu as pensé à le faire ou en dehors d'Israël, ou contre Israël, alors ça ne peut pas compter. Ça, c'est le texte de la Gemara dans le traité d'Avodah Zara, à la page 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un plan de l'histoire qui fait que nous nous mouvons dans une histoire qui est écrite non par nous, mais par Dieu. Chaque chose que je peux écrire obéit à cette volonté. Du fait que je ne connaisse pas cette volonté, elle s'appelle ma volonté. Et même si je vais à l'encontre, on a donné un jour l'exemple qui est écrit dans le livre qui s'appelle Mirta Meliaou, de Pharaon. Pharaon, la Gemara nous dit dans le traité de Psachim, a fait tuer non seulement les garçons juifs, mais les garçons égyptiens aussi, parce qu'il avait peur que le sauveur du peuple juif soit un égyptien. Donc il est allé à l'encontre d'une démarche divine qu'il essayait de comprendre. Seulement, d'un autre côté, le peuple juif avait besoin de quelqu'un qui pouvait parler à Pharaon d'égal à égal, qui avait été éduqué de la même façon que Pharaon. C'est pourquoi la fille de Pharaon a introduit dans la maison de Pharaon Moshe Rabbeinu, et c'est Pharaon lui-même qui, tout en luttant contre le sauvetage éventuel et la sortie éventuelle du peuple juif, c'est lui-même qui l'a préparé, puisque c'est lui-même qui a éduqué Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que, en luttant contre Dieu, tu feras toujours la volonté de Dieu. Le problème, c'est un problème de choix. De quel côté tu te situes par rapport à ce que toi, tu discernes être la volonté. Tu te situes contre, tu es contre. Mais au fond, rien ne peut exister. Et rien ne peut continuer sans cette volonté-là. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ratzon Hashem, la volonté divine. Ça, il faut en être clair. Le mot Olam, le mot monde est constitué de lettres Aïn, Lamed, Mem. Il y a encore deux mots en hébreu qui sont les anagrammes l'un de l'autre et qui sont aussi les anagrammes de ce mot Olam. Il est écrit un verset que tout le monde connaît dans Job. Adam, le Amal, Yulad. L'homme a été créé pour la peine. Amal, en hébreu, veut dire la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a été ainsi fait que sans effort, tu ne peux rien acquérir. La monnaie d'échange de l'acquisition de quelque chose par la personne, c'est le Amal, c'est l'investissement qu'il y a mis. Ok. Vous savez qu'en hébreu, pour voler, il y a deux mots. Lorsque l'on vole d'un homme, ça s'appelle être gonev ou gozel. Celui qui prend sans la connaissance du propriétaire s'appelle un ganav. Celui qui prend par force en connaissance du propriétaire s'appelle un gazlan. Ou gozel ou gonev. Il y a des choses qui n'appartiennent pas à l'homme. Par exemple, un homme fait un don pour le service du Beth Amikdash, pour le service du temple. Si quelqu'un vole cet objet, ça ne s'appelle plus Ganav ou Gazlan, ça s'appelle Moel, Me'ila. Il y a toute une paracha dans la Torah qui traite de la Me'ila. Me'ila, c'est voler quelque chose que l'homme a consacré au service divin. Grosso modo, on va dire, mais c'est une grande discussion dans les Rishonim et dans les Achaonim, de savoir, est-ce qu'il peut exister un Roshut Gavoa? Est-ce qu'il peut exister, de même qu'il y a un domaine public et un domaine privé, il y a une propriété publique et une propriété privée, est-ce qu'il peut exister une propriété divine? C'est que légalement, c'est pas facile de trouver un sens à propriété divine. Tout ce qui est consacré au culte, on va l'appeler, bien que la définition n'est pas rigoureuse, on va l'appeler propriété divine. Celui qui prend quelque chose de la propriété divine s'appelle Moël. Donc, on va dire comme ça. Voler du bon Dieu, ça s'appelle Meïla. Prenez l'être de Moël, c'est le contraire du mot Amal. Ça veut dire quoi? Entre le bon Dieu et toi, il n'est possible d'avoir une acquisition qui a des valeurs à ses yeux que par le Amal, que par l'effort. Tout ce qui n'est pas d'effort, c'est du vol. Moël. Si tu crois que ça t'appartient, tu peux vivre en sachant que ça ne t'appartient pas. Il y a des gens qui comprennent que leur intelligence, leur don, leur bien même, ça ne leur appartient pas. Mais celui qui croit que ça lui appartient, on pourrait lui démontrer facilement que ça ne lui appartient pas, puisque c'est venu en même temps que lui. Vous savez qu'on n'a pas de sens ou de possibilité de propriété, du moins dans le système de la Torah, qui soit et l'objet et le propriétaire venu en même temps. C'est impossible. Parce que la propriété, c'est où la conséquence d'un acte légal? Ça peut être un héritage. Ou alors la propriété, c'est simplement le fait que l'autre n'a pas le droit, par une interdiction telle et telle, d'utiliser ce qui s'appelle dans ma propriété. Mais comment c'est venu dans ta propriété? Ça doit être la conséquence d'un acte légal. Donc je suis propriétaire de ce qui est venu en même temps que le jeu. Ces notions très difficiles à trouver dans le système de droit de la Torah. Je ne sais pas si dans d'autres systèmes juridiques ça peut exister, mais on ne peut pas être propriétaire de quelque chose qu'on a ni hérité, ni qui est le résultat d'un acte légal. Tu peux acheter, tu peux voler, il y a une certaine propriété qui vient du vol. Tu peux hériter. Mais tu ne peux pas avoir sans ça. Dans le droit de la Torah, même le corps n'appartient pas à la personne, au jeu. Je n'ai pas le droit, moi, de me mutiler, ni de disposer de mon corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de propriété qui puisse s'établir entre quelque chose qui a la même origine ou qui est venu en même temps que le propriétaire. C'est impossible. Il faut toujours que le propriétaire soit avant et qu'il puisse avoir un acte légal qui le consacre au propriétaire. Ça, c'est sans entrer dans le problème si la propriété existe. Parce qu'il est possible que la propriété n'existe pas. Je vous dis tout de suite. C'est possible que dire que je suis propriétaire ne veut rien dire. On peut seulement dire que l'autre ne veut pas être utilisateur pendant le temps qui m'est réparti d'utilisation, mais que la notion de propriété ne veut rien dire. Bon. On va aller plus loin. Vous avez tous compris que le mot Amal et le mot Olam, c'est le même mot. Ça veut dire qu'il n'est pas concevable que quelque chose puisse exister. Je ne veux pas dire sans le mot énergie. On va traduire le mot amal. Amal, c'est le labeur au sens moral. Mais c'est aussi le labeur au sens physique. Il n'y a rien dans le monde qui soit statique. Il n'y a rien qui ne travaille pas. Il n'y a rien qui ne bouge pas. Il n'y a rien qui n'a pas besoin d'effectuer un certain travail, mouvement, énergie, tout ce que vous voulez, pour pouvoir se maintenir. Rien, il n'existe rien. Maintenant, à partir de ce moment-là, on est obligé de considérer que la notion de Hamal, la notion de labeur, qui va faire résonance à une notion qui est une notion de difficulté, elle est intrinsèque à la relation entre Dieu et l'homme. Tu ne peux obtenir quelque chose qui t'appartienne alors que tout appartient à Dieu que parce que tu l'as acquis et la monnaie et la forme d'acquisition, c'est un certain labeur, un certain mouvement. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que le mot Olam, le mot Ma'al et le mot Amal viennent de la même racine, c'est juste une interversion des lettres. De là vient toute une littérature qu'il est difficile de passer sous silence, mais qu'on aimerait bien occulter. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Menachot. Pourquoi le peuple juif est-il comparé à Shemen ? Nous, on va dire de l'huile. Quelque chose qui est extrait. Ma Shemen. Là-bas, on parle de l'huile d'olive, mais c'est la même chose. Hein. Si vous prenez l'olive, Eino moti shamno et la liode que tisham. Le peuple juif, dans le prophète Jérémie, il est écrit Zaitra Anan, fait pritoar, kera, rachev. Dieu t'a appelé Zaitra Anan. Zaït, c'est l'olive. Ranan. Non, Ranan veut dire frais. Kera, rachev, Dieu t'a appelé ainsi. Ma Zaït, Eino, Motsi, Shamno, Ela, Liode, Ketisham. Et pour faire sortir lui, il faut presser. Le peuple juif, il ne sent rien de bon sans qu'on le presse. D'abord, il faut savoir que lorsque les Chachamim parlent du peuple juif, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas des autres et que les autres sont mieux lotis. Il y a un principe dans le monde. c'est qu'on puisse accéder à rien sans pression. De là vient la notion d'épreuve. Lorsque l'on dit Shemen, Tourak, Shemecha, c'est presque comme si on disait rien n'est accessible si tu ne passes pas par ce processus du Shemen. La pression. On va essayer de donner un cadre plus général au problème. Vous savez que chaque année, avec des facilités ou des difficultés qui lui sont propres. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Nida, qu'avant la conception de chacun, chacun est présenté devant Dieu. Et on décide de chacun, chacham ou tipesh, est-ce que celui-ci va être intelligent ou bête? Gibor ou chalash, fort ou faible. Achir ou ani, riche ou pauvre. De toute sa vie, on décide de ce qu'on va lui donner comme élément pour pouvoir se construire. La Gemara dit, Tzadik v'racha l'onem. Il y a une chose que le bon Dieu ne décide pas. Tzadik v'racha. Le sens dans le bon, dans le mal, dans le permis, dans l'interdit, que tu donnes à ta vie. Ça, c'est toi, rien n'est décidé. C'est le sens de la Gemara dans le traité de Brachot. Hakol bide shamaim, tout est dans les mains du ciel. Chutz à part, mirat shamaim, la crainte de Dieu. Tes rapports avec le bon Dieu, tes rapports avec le bien et le mal, là, rien n'a été décidé. C'est dans ce champ-là que tu vas te mouvoir. Le reste, ça a été décidé. On va dire maintenant, on va traduire à la lumière de ce qu'on a dit. Le reste ne t'appartient pas. C'est Dieu qui en a décidé et qui l'a donné. La bandit, si tu es beau, si tu es moche, c'est pas de ta faute si tu es moche. Ça n'est pas de ta faute, surtout si tu es beau. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose dont tu n'as ni la responsabilité. Mais d'un autre côté, tu n'as pas de justification à avoir. Je ne rends compte à personne si je suis beau. L'inverse est aussi vrai. Voilà ce qui est écrit dans la Gemara dans le traité des Nida. Ouvrez les Pirkei Avot, vous allez trouver le contraire. Eizehu Chacham. Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? Alomen Mikol Adam. Ou alors à Roé et Anolad. On a deux définitions. Celui qui sait apprendre de chaque homme ou de chaque chose. C'est ça celui qui est intelligent. Ou alors à Roé et Anolad, c'est quelqu'un qui essaye de voir ce qui va être. Il ne se contente pas de vivre dans le présent, mais il essaye d'anticiper. Nous, on a vu une autre définition. Lorsqu'on présente celui qui va venir au monde, et que Dieu décide Chacham ou Tipesh, la définition de Chacham, c'est bien le contraire de Tipesh. Là-bas, Chacham, ça ne veut pas dire celui qui va apprendre des autres, celui qui va voir. Chacham veut dire caution intellectuelle. Deuxième définition qui a l'air bizarre. Eizeh Ashir, qui est celui qui est riche, c'est qui? Asamer Bechelko. Celui qui est heureux de son sang. Heureux de son sang ou non, ça fait partie de la partie Ratchamayim, ça ne fait pas partie de la partie de ce que Dieu a donné. Lorsqu'on a présenté l'homme devant Dieu, riche et pauvre, ça voulait dire, hein, en monnaie, en bien. On voit une autre définition. Eizehu Gibor. Quel est celui qui est fort? Hakovesh et Yitzro. Celui qui sait dominer ses penchants. C'est lui qui commande. Ça, c'est le fort. Il est évident que dans la formulation de la Gemara, dans le traité de Nida, on ne parlait pas de ça. on parlait de fort ou de faible. Physiquement, c'est comme les tartines. Il y a des gens, lorsque ça tombe toujours du côté du beurre. Il y a des gens qui attrapent tous les virus, il y a des gens qui ont toutes les maladies, et d'autres qui sont bien portants. C'est de ça qu'on parlait. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup on a changé de définition? Ça peut être très simple. C'est que ce qu'on a dit, que à Kol Bideshamaim, tout est dans la main du ciel. Tu n'es propriétaire de rien, si ce n'est ce que toi tu vas acquérir avec ta monnaie, dans ce Olam, où tout marche avec le Hamal. D'accord. Donc nous, on a un critère qui est faux. On dit voilà, tout m'a été donné, et il n'y a que le choix du bien et du mal qui dépend de nous. Donc notre limite, notre champ est très limité, et finalement, Tzadik et Racha, il n'y a pas beaucoup de choses que je puisse changer avec ça. Viens Pirkei Avot, il me dit ceci. Avec la définition du Tzadik et du Racha, tu changes les définitions de ce que tu as acquis. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un quotient intellectuel formidable, mais il n'est pas capable d'écouter les autres. Celui-ci, c'est un bête. Eizehu Chacham, Alomel Mikol Adam. La Chokhma, c'est le savoir apprendre. C'est le savoir regarder et de savoir se positionner par rapport aux choses. Tu peux avoir le quotient intellectuel le plus grand. Si toi-même, tu n'as pas fait un travail qui est celui de savoir écouter, parce que c'est difficile, c'est beaucoup plus facile de s'entendre parler que d'entendre un autre. Si tu arrives à faire cet effort-là, qui va dans le sens de Tzadik ou Racha, tu vas changer les définitions. Tout d'un coup, on voit avoir quelqu'un qui n'a pas un quotient intellectuel magnifique. Mais dans la vie, il est 100 fois plus intelligent que l'autre. Il s'en sort beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il a transformé la donnée de base, qui était une donnée qui ne lui appartient pas, puisqu'elle est venue avec elle, en une donnée qui lui appartient. Comment il a transformé ça? Par le Hamal. C'est ça ce que le monde lui permet de faire. Deuxième chose. Et Iseo Achir, qu'est-ce qui est riche? Moi je sais ce qui est riche, tu n'as pas besoin de me donner de définition. On voit tous les jours ce qui est riche, on voit tous les jours qui est riche, qui est pauvre. Et on se croit enfermé dans cette définition. Mais c'est pas vrai. Il y a une autre façon d'être riche ou pauvre. C'est qu'on peut avoir énormément d'argent. Et il y en a des gens, il y a des gens qui en ont énormément, mais ils en doivent toujours. Ils en ont jamais assez. Donc ils sont pauvres, puisqu'ils sont toujours demandeurs. Alors que celui qui est Samer Bechelko, qui est heureux de ce qu'il a, puisqu'il n'est pas demandeur, c'est une nouvelle définition de ce qui est riche. Cette définition-là, elle va se superposer et se mettre à la place de la première définition. Ça veut dire qu'en disant que tout est de la main de Dieu, à part la Yirat Shamayim, à part la crainte de Dieu, je peux changer toutes les définitions et faire que les mêmes qualités, les mêmes défauts, qui étaient intrinsèques et qui ne m'appartenaient pas, maintenant ils vont devenir les miens, c'est moi qui les ai créés, et j'ai changé les définitions au point que maintenant je suis responsable en tirant chez bête, mais c'est de ta faute mon Dieu. Et comment c'est de ma faute? Regardez la Gemara dans le traité de Dina, il y a marqué que c'est le bon Dieu qui décide. Non, le bon Dieu décide au départ parce qu'il a donné une définition, mais toi tu peux donner une autre définition à qui est fort et qui est faible. On peut avoir tous les virus du monde, mais on peut être fort. Et on peut être en bonne santé physique et être un faible. Tout le monde peut comprendre ça. Le problème, c'est de savoir quelle est la définition qu'on donne aux choses. Dans la deuxième définition, qui est celle des Pirkei Avot, c'est la définition des choses qui appartiennent à la personne. Parce qu'elles sont toujours le résultat du Hamal, d'une difficulté. Donc, la pression fait que j'ai l'occasion de transformer même les choses qui me sont données et qui ne m'appartiennent pas, même les qualités et les défauts qui ont préexisté ou qui sont venus en même temps que ma naissance, je peux les annihiler totalement. Et je peux donner une autre définition. Et dans cette deuxième définition, je suis le maître. Il y a une chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est que lorsque le bon Dieu m'envoie ce qu'on appelle des Issourim, il m'envoie des tourments. Et il me frappe dessus. Là, je ne peux rien transformer. Là, il n'y a pas de Hamal. Alors là, il va falloir définir les choses. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle des tsarot. On appelle tsar en hébreu. Ça vient du mot coincé, tsar. Étroit. Dans beaucoup de cas, c'est moi-même qui ai défini un chemin tellement étroit qu'il m'arrive que des bricoles. Mais il y a des cas où on a l'impression que la fatalité s'acharne sur la personne. Là, on ne peut pas dire, tu sais, il y a une autre définition. Il n'y a pas d'autre définition. Là, je ne peux pas transformer. Une qualité d'un défaut, on peut le transformer. On a dit, tu es bête, tu sais comment devenir intelligent. L'autre est intelligent, tu sais qu'il peut devenir bête. Encore que l'égalité n'est pas toujours garantie. Mais au moins, il y a d'autres définitions. Mais le fait que le shemen, on ne l'obtient que sous la pression, ça c'est une donnée qui est difficilement acceptable. Et ça, c'est la même pour tous. Sauf qu'on voit qu'il y en a qui ont plus de pression, on voit qu'ils ont moins de pression. Et là, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Non seulement on ne peut pas le résoudre, mais on est obligé de dire que le plus de pression, le moins de pression, le malheur, le bonheur, ce que je leur donne, est par rapport à la façon dont je vais vivre avec. Parler, c'est facile. Un jour, il y a une dame qui m'a téléphoné. Elle m'a dit, j'ai entendu une cassette sur la simcha, la joie. On peut être joyeux dans beaucoup de cas. Mais elle m'a dit, il y a une chose que vous n'avez pas dit. Et je voudrais savoir si vous avez un truc pour ça. Comment est-ce qu'on peut être dans la simcha, puisqu'il faut tout accepter avec joie, lorsqu'on a faim? Comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, les définitions, elles perdent de leur sens. Bon. Comment est-ce qu'on a réussi à l'aider? Un jour, elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais vous ne m'avez toujours pas expliqué comment on peut être le simra quand on a faim. Je lui ai dit, c'est un petit peu présomptueux de ma part, mais si on a quelqu'un à qui téléphoner pour lui poser la question, et on a quelqu'un qui va vous aider, et qu'ensuite, on a un petit peu moins faim, alors vous comprenez comment on peut être joyeux même quand on a faim. C'est méchant, mais il faut quand même comprendre. C'est que on ne peut pas toujours poser la même question et en même temps vouloir une réponse. L'honnêteté même, elle demande à la personne, c'est que si tu as moins faim, ne viens pas dire c'est grâce à lui, mais le bon Dieu, il a fait que j'ai faim. Comment je peux être content que les choses puissent se résolver dans le monde, puisque si vous n'étiez pas là, ça n'aurait pas marché. Alors fais le compte que puisque tu as une possibilité. Finalement, je lui ai dit, vous savez, je serai très gentil avec vous. Vous avez beaucoup de chance d'écouter cette cassette, parce que sinon vous auriez fait encore aujourd'hui. Donc finalement, le bon Dieu ne fait pas si mal les choses. Mais il y a une chose à laquelle je n'aurai jamais de réponse. Pourquoi faut-il en passer par là? La réponse, elle est simple et elle est impossible. Elle est simple parce que l'acquisition des choses, ça n'est pas un rapport simple qu'on a avec les choses. L'acquisition des choses, c'est quelque chose qui doit faire partie de la personne. Et ça ne peut faire partie de la personne que si c'est le résultat de la personne. Et le résultat de la personne, c'est le résultat de son travail. On a besoin de cette pression, parce que sans cette pression, on ne pourrait pas acquérir les choses. Maintenant, on ne va pas continuer encore longtemps la question de pourquoi le bon Dieu a-t-il créé les choses de cette façon. On va définir juste une chose. Pour grandir, il faut laisser un petit peu de sa peau. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas arriver sans avoir investi. Investi, ça coûte toujours. C'est-à-dire que tu veux transformer les choses, donne. Donne, ça veut dire, donne de toi, souffre. Encore une fois, il faut rester dans la limite de ce qui est digne. Il y a des souffrances que je ne pourrais pas expliquer, que personne ne peut expliquer. Je parle ici des souffrances qui sont celles de l'acquisition. Vous ne serez jamais un grand sportif si vous n'êtes pas capable de souffrir. Moi, quand j'étais petit et que les chemises me coinçaient au col, on me disait il faut souffrir pour être beau. Ça, c'est des choses qu'on conçoit. Il y a des souffrances dont personne ne peut vous dire quel est le résultat que vous aurez après et si ça vous sert à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une inconnue qui reste. Cette inconnue, elle est très simple. C'est la seule qui me permet de pouvoir avoir le choix. Si je comprenais en quoi toutes ces difficultés, ces malheurs étaient exactement ce qu'il fallait pour moi, j'aurais plus de difficultés à les accepter et dans ce cas-là, tout le système serait faux. Ça, c'est les choses qu'on doit se dire à soi-même, qu'on n'a pas le droit de dire aux autres. Lorsque quelqu'un au téléphone, il vous demande « Pourquoi je suis malade ?» Je ne peux pas lui répondre ça. Si je savais pourquoi, il n'y aurait plus de sens à la maladie. Mais c'est les choses qu'il faut apprendre aux gens à comprendre, sans amal, sans effort. Effort, ça veut dire souffrance. On ne peut rien acquérir. Si on avait créé les choses autrement avec facilité, on n'aurait rien compris, on n'aurait pas pu acquérir les choses. Il y a une inconnue. Quelqu'un va venir, il va vous dire, voilà, je vous pose le problème. La souffrance d'un enfant de 5 ans, ça sert à quoi? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on peut juger du système. Je n'en ai pas la moindre idée. Et si j'en ai une idée, je ne peux l'exprimer que pour moi. Parce que l'autre attend que je lui fasse passer la souffrance, pas que je lui l'explique. Parce qu'il y a des souffrances dont on ne voit pas du tout le résultat final. La seule chose, un jour quelqu'un d'handicapé est venu chez moi, il m'a dit « Expliquez-moi la justice. » Je répondais quelque chose de démagogique, bien que je crois que ce soit profondément vrai, mais c'est un peu démagogique. Je lui dis « Un cheval, lorsqu'il est meilleur que les autres, et on sait qu'il a plus de facilité, on lui met un handicap. Comme ça, il est exactement au même niveau que les autres. » C'est démagogique parce que ça fait très plaisir à la personne, mais ça ne fait pas que le handicap soit moins lourd. On n'a pas de réponse à tout. Et heureusement qu'on n'a pas de réponse à tout. Parce que si on avait des réponses à tout, on n'aurait pas le choix. Le fait que les choses nous interpellent, c'est bien dans un certain sens. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté sur le Sinaï, il a posé une question à Dieu. Pourquoi Tzadik veut Tov, veut Ralo et Racha veut Tov? Pourquoi est-ce que je trouve des gens bien à qui il arrive tous les malheurs du monde et des gens mauvais qui ont tout le bien qu'ils désirent? On lui a répondu, Veraïta et Achorai, tu vois ce qui est derrière moi, ou Fanaï, mais ce qui est devant moi, Loiraou, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. C'est ce que David Amelech a dit, Kilo Irani. Enfin, il a dit une autre chose dans le verset, il a marqué « Kilo irani adam vachai ». Il y a des choses qu'on ne peut pas voir et vivre. Parce que la vie n'a plus de questions sans ça. Il en reste que c'est un fait. Toutes les choses bonnes passent par ce moussac de Shemen. Ça veut dire que lorsqu'il y a marqué ici Shemen Turak Shemecha, le nom de Dieu, on va expliquer ce que c'est le nom de Dieu. Ça peut avoir un bon parfum, mais ça passe par le problème du Shemen. Tu veux extraire, c'est difficile. Les choses dans le monde ne sont pas à leur état idéal. Il faut les extraire. Ça, c'est un labeur. Sans ça, on ne peut rien acquérir. Aller jusqu'au fond des choses et tout déterminer, on ne peut pas. Je vais vous dire pire que ça. Même si on pouvait, ce ne serait pas accepté. On raconte une histoire qui s'est passée avec un disciple du Baal Shem Tov qui s'appelle le Maguide de Mezritch. L'histoire est la suivante. Il y a un couple qui est venu chez lui, qui lui a demandé une bracha, qui prie pour qu'il puisse avoir des enfants. Il a dit non. L'année après, ils sont revenus, il a dit non. La troisième fois, ils sont revenus. Il leur a dit, je peux le faire. Je peux prier pour que vous ayez des enfants. Mais il faut accepter ce qu'on vous donnera. Alors, le mari a dit, moi, j'accepte rien du tout. Mais si ma femme accepte, je prends sur moi. Il lui a dit, tu prendras l'enfant, quel qu'il soit et comment il soit. Elle a accepté. Vous savez que les acceptations dans ce genre de choses, ça ne veut pas dire grand-chose. Elle a eu un enfant, le plus doué, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur qu'on puisse désirer. Et le jour de sa bar mitzvah, il est décédé. Elle est revenue chez le Maguide de Mezritch. Elle lui a dit, moi, je pensais qu'il y aurait un petit défaut. Je pensais qu'il y aurait un petit problème. Mais de m'avoir donné ça et d'avoir repris, c'est la chose la plus cruelle du monde. Je n'ai pas accepté ça. Il lui a dit, voilà, quand vous êtes venu la première fois, j'ai dit non. Mais on ne peut pas décider de toutes les choses pour les autres. Quel était exactement le problème, je ne savais pas moi-même. Juste, j'ai compris une chose. Il y a une neshama qui doit venir au monde pour tel et tel temps. Ça va engendrer des souffrances. Je peux prévenir la personne, plus je ne peux pas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'acceptera jamais ces choses-là. Même quelqu'un qui est prévenu, même si j'expliquais à quelqu'un, tu sais pourquoi avec la neshama, le machin, le truc, toujours il y aurait le même problème. Parce qu'on aurait un problème qu'on ne peut pas résoudre. Pourquoi ça marche comme ça? L'inconnu ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'arranger des choses ou vivre avec les choses. Malheureusement, on voit que dans la pire des horreurs, l'homme a encore du ressort. Comment les choses sont faites? Il y a un moment où on doit arriver à l'inconnu. Panay lo yiraou. Le devant, on ne voit pas. Parce que si tu sais ce qui t'attend et tu sais comment marchent les choses, c'est terminé. Il n'y a plus de problème à surmonter. Donc il doit avoir une limite à ce genre de choses-là. Cette limite, elle s'appelle la Emouna. La Emouna commence à partir du moment où la compréhension se termine. Celui qui a tout compris, il n'a plus besoin d'Emouna. L'Emouna, ça fait partie de la grandeur d'un homme. Celui qui ne sait pas avoir confiance, il lui manque quelque chose. Celui qui veut être maître de tout, c'est un petit. On ne peut être grand que si on sait faire confiance. Maintenant, qui avoir confiance? Ici, on ne demande pas d'avoir confiance en l'homme. Donc ça n'est pas la petitesse de l'homme, au contraire, c'est sa grandeur. Parce que vous savez que c'est une accusation qui est portée fréquemment contre le peuple juif. Vous souffrez, vous êtes tellement petit et tellement bête que vous avez toujours confiance. Le fait de souffrir et de garder la confiance, c'est une grandeur, c'est pas une petitesse. Il n'y a que celui de l'extérieur qui peut juger que c'est une petitesse. Parce que lui n'endure pas la même souffrance. Mais qu'on le voit lui souffrir et quand même garder la confiance. C'est une grandeur. Lorsque j'ai vraiment confiance en quelqu'un, et que ce quelqu'un me déçoit la première fois, et la deuxième fois, et la troisième fois, la grandeur, c'est de continuer à avoir confiance et de pouvoir trouver des résolutions au problème qu'il m'a posé. La petitesse, c'est de lui dire, je ne peux pas avoir confiance en toi, va-t'en. L'histoire du peuple juif qui souffre parce qu'il est petit et habitué à souffrir et qu'on lui fait le coup de la Emouna, tout ça c'est la grandeur du peuple juif, ça n'est pas sa petitesse. Lorsque vous avez deux associés, si on n'est pas capable de passer sur certaines choses, c'est qu'on n'est pas un associé. Nous avons, par le don du Sinaï, été associés à Kadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'on doit savoir accepter. C'est écrit dans la paracha de Vaïra, Ushmi Hashem lo nodati lahem. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont vu que des promesses. Ils n'ont vu aucune réalisation. Et pourtant, ils sont allés dans le sens qu'on leur a demandé. Si tu attends toujours de voir la réalisation des choses, c'est-à-dire que tu ne sais pas t'engager. Tu ne sais pas t'engager, tu es petit. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de nous faire penser le contraire. Si tu t'engages, c'est que tu es petit, tu es manipulé. Mais comme la décision vient de nous, cette manipulation, elle n'a pas lieu d'être crainte. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il faut expliquer ici. Le Re'ach Shemanecha Tovim. Vous savez que la Torah a amené au monde une civilisation. On peut la critiquer. On parle de la civilisation judéo-chrétienne. C'est bien, c'est mal, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour l'instant, on a vu que c'est la seule qui peut maintenir ses valeurs. À la limite, nous n'avons même pas à juger de savoir si c'est bien ou mal. Parce que la réalité, c'est qu'elle attire toujours autant depuis le Mont Sinaï jusqu'à maintenant. Il y a des juifs qui se convertissent à d'autres religions. Mais vous n'avez jamais vu un juif qui frappe à la porte d'une autre religion. Je ne parle pas de ceux qui le font par intérêt. Tout le monde connaît la blague. Un juif rencontre un autre. Il lui demande comment tu t'appelles. Il dit Martin. Il dit comment tu t'appelais avant. Il dit Maurice. Il dit deux fois tu as fait le coup. C'est normal parce que tout le monde me demandait comment je m'appelais avant. Il y a celui qui sait le faire par intérêt. Et il y a celui qui le fait par recherche. Rares ont été les juifs qui ont frappé à la porte des autres. Qu'ils ont été victimes des autres, ça oui. Il y a même des juifs qui sont convertis et qui se convertissent. Parce qu'ils croient que comme ça ils vont attirer des autres. Et qu'ils restent juifs et qu'ils restent maîtres de la situation. C'est-à-dire que la bêtise chez le juif, elle peut ne pas avoir de limite. Mais l'attirance de l'autre, elle n'existe pas. Alors que ceux qui sont attirés par le peuple juif, c'est innombrable. On va vous répondre que le tragique attire des gens. C'est vrai. Mais seulement le tragique, si on peut lui donner un sens. La preuve, c'est que ça fait des générations que les Indiens et les Papous sont persécutés. Et on n'a jamais vu de chrétiens se convertir et devenir des Indiens et des Papous parce qu'ils sont persécutés. C'est parce que ce tragique, on y perçoit un sens. C'est ça ce qui a marqué le Re'ach Shemanecha Tovim, Shemen Turak Shemecha, ton nom. On va voir ce que ça veut dire le nom. C'est quelque chose dont le parfum attire. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le nom. Ton nom. C'est quoi ton nom? Vous savez que la relation entre le spirituel et le matériel, elle ne nous est pas concevable. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut dire comment se passe exactement le phénomène de la naissance ou de la mort, en quoi le spirituel et le matériel peut-il avoir une jonction. Ce sont deux systèmes qui n'ont rien à voir. Le matériel, c'est le monde du fait, alors que le spirituel, c'est le monde de l'idée. Comment nous et comment Dieu est arrivé à conjuguer les deux en même temps, c'est une chose pour nous qui s'appelle Pélé, qui s'appelle extraordinaire. L'âme et le corps, la jonction qui se fait et la disjonction qui se fait, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas exactement. Il y en a qui ont essayé de peser les corps à la mort. Est-ce qu'il y avait un poids qui s'enlevait? Est-ce que tout ça, ça n'a pas donné de résultats probants. Nous sommes, nous, incapables de réfléchir même en notion de spiritualisme sans matérialité. Parce que nous n'avons pas d'exemple et nous ne savons vivre que par exemple. Nous pouvons raisonner que par rapport à des acquis. Donc, c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que la Torah, elle appelle ça Pélé. C'est pour ça que l'ange, lorsqu'il a apparu au père de Samson, Samson, et il a apparu Belabatesh dans une flamme, il lui a demandé quel est ton nom, il a dit ce mot Pélé. Pélé, le spirituel, le matériel, c'est une chose que je ne peux pas t'expliquer. Ok. Ça, c'est une chose qu'on admet facilement. Si c'est comme ça, comment pouvons-nous avoir une idée de Dieu? On va essayer de raisonner en disant une chose. À partir du moment où l'on ne détermine pas la nature de quelque chose qui m'est étrange ou étranger, mais que je détermine la nature d'un comportement ou la nature d'une expression, je ne parlerai jamais de Dieu en tant qu'être dont j'ai une connaissance, mais je parlerai de ce que je perçois de lui et dont j'ai une connaissance. Nous avons besoin de mettre un nom à chaque chose. Ce nom, c'est la référence que nous avons dans la pensée par rapport à cette chose. Vous savez que l'intelligence se mesure à la faculté de se débarrasser du matériel dans le raisonnement. Si j'explique à un enfant, imagine un oiseau, et qu'il me demande est-ce qu'il est bleu ou vert, je lui répondrai. Mais un adulte, quand je lui dis imagine un oiseau, s'il me demande il est bleu ou il est vert, je lui dis que c'est un imbécile. Donc, à partir du moment où je sais abstraire, je peux concevoir que je parle de quelque chose dont la nature m'est étrangère. Mais je vais être obligé de lui donner un nom. C'est la raison pour laquelle on parle du Shem, du nom de Dieu. Dieu chez nous, on le nomme l'être. On conjugue le mot être. Ove, c'est être. Hey, vav, hey, c'est être au présent. Haya, c'est être au passé. Et yé, c'est être au futur. La contraction des trois formes donne les lettres yud, ensuite la lettre e, ensuite la lettre vav, et ensuite la lettre e. Vous pouvez le lire de toutes les formes de tous côtés, vous verrez que vous trouvez le mot haya, ove et yé. Ce que nous pouvons percevoir de par l'enseignement de la Torah, ou de par rapport à l'histoire, on appellera ça le shem, le nom. Ça veut dire qu'on va déduire des notions et des concepts d'un enseignement ou d'un comportement. Nous appelons ça, nous, le Shem, le nom de Dieu. Dieu, on ne connaît pas. Mais on peut donner un nom à ce que nous pensons au moment où nous pensons à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le Shem. Vous prenez le mot Shem en hébreu, vous allez l'inverser. Il y a marqué lo yamush, cela ne s'écartera pas. Shem, c'est ce qui colle au concept. Dès que j'écarte le concept de son nom, ça s'appelle la mouche, séparé. Alors à ce moment-là, je n'ai plus de définition du concept. Donc le Shem en hébreu, c'est ce que j'ai collé, ce que j'ai mis pour traduire une idée. Mais dans le cas de Dieu, ce n'est pas pour traduire la nature de la chose, c'est traduire un comportement. Donc on aura toujours affaire au Shem. Zé Shemi Lolam. Dieu va nous dire, ça c'est mon nom. Mon nom, ça veut dire, quand tu penses à moi, pense-le dans ces termes. Un des termes, et le premier des termes, c'est celui qui nous a sorti d'Égypte. Anochi, Hashem Elokecha, Asherot Seticha, Meretz Mitzrayim. Voilà. Chaque fois que j'aurai affaire à un Shem, j'aurai pour moi affaire à Dieu. Il faut faire très attention parce qu'en réalité, je n'ai pas affaire à Dieu, j'ai affaire à la perception que j'ai d'une espèce de conduite ou d'un enseignement que Dieu me délivre. Mais je n'ai jamais affaire à Dieu lui-même. Dire que son nom, c'est quelque chose qui dégage un parfum, ça veut dire que j'ai besoin de son nom et je suis attiré par son nom, ça veut dire par un comportement, ou par un exemple, ou par un enseignement. Et c'est ça qui attire ce qui vient de l'extérieur. On va continuer. Alamot. Qu'est-ce que ça veut dire Alamot, une jeune fille? Ici, on parle ou des juifs de tous les horizons, ou de toutes les nations de la terre. Alken Alamot Taïboucha, ça veut dire que le judaïsme, on va dire le nom de Dieu, c'est quelque chose qui attire. On va essayer de croire pourquoi ça attire et pourquoi ça s'appelle Alamot. Il y a un verset de David Ameler dans un psaume qu'on lit tous les matins, Vehu Yena Genu Almut. Motamo, c'est Dieu qui nous conduit, Almut. Almut, si on le traduit, ça veut dire au-dessus de la mort. Ou Yemagenu Almut. Alamot, dit le Midrash, ne lis pas Alamot, lis Almut. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Almut. Pour ça, il faut faire une petite parenthèse. Vous savez que la sortie d'Égypte, elle s'est faite avec une notion de vitesse, précipitation. Pour nous, c'est la notion de matza et de chametz. Ce que tu laisses fermenter, laisse grandir, ça, c'est tout à fait différent dans son essence avec ce que tu fais par précipitation et que tu empêches de grandir. Dans le langage de la Gemara, lorsqu'il y a marqué qu'il ne faut pas laisser le achmitz, mitzvah bal yadra al tachmitzena. Une mitzvah qui vient al yadra, elle est dans ta main. Al tachmitzena, ne la laisse pas devenir chametz. Ça veut dire, ne la laisse pas pourrir, ne la laisse pas se faner, fais-la tout de suite. Chipazon en hébreu, la précipitation, la vitesse. Ça n'est pas comme nous on pourrait dire vitesse, on va vite. Parce que la vitesse se mesure aussi en temps. Vitesse est dans le sens, comme ça dit le Maharal de Prague, de ce qui n'obéit pas aux critères du temps. Kiv Khipazon. La liberté que le peuple juif a eue de cette sortie d'Égypte, c'est pas une liberté qui a été négociée. Tu auras tant et tant, tu feras tant et tant, c'est pas un accord. C'est quelque chose qui s'est passé de Khipazon, en vitesse. Ça s'est passé en vitesse parce que ça doit échapper à la notion de temps. Qu'est-ce que ça veut dire échapper à la notion de temps? C'est que nous n'avons pas d'autre barème pour mesurer la vie que le temps. Notre vie, c'est ce qui est à ma disposition. Je ne peux le mesurer qu'en temps. En vérité, ce temps-là nous a été donné pour que nous puissions peser les choses et mesurer les choses. Donc nous sommes bâtis pour exprimer les choses en temps. Mais il y a des choses qui ne doivent pas obéir au temps. C'est la notion de mitzvah. Le calcul dans la notion de mitzvah, ce qui va être fait avant, ce qui va être fait après, ce qui va être fait pendant, ce qui passe avant, ce qui passe après, c'est une notion qui est étrangère à la notion de mitzvah. Mitzvah bal yadra, une mitzvah qui vient, ne lui laisse pas le temps de devenir chametz. Et qu'est-ce que ça veut dire devenir chametz? De monter dans le sens pourrir. Pourquoi est-ce comme ça? Parce que nous sommes enfermés dans cette notion de temps pour que nous puissions mesurer les choses. C'est utile techniquement. Mais en vérité, l'homme a envie d'échapper à cette notion de temps. Non seulement il a envie d'échapper à cette notion, mais il est étriqué dans cette notion-là. Parce que le temps, ça le ramène toujours à sa propre vie et à son implication. La mitzvah, on aimerait que tu t'inspires du chametz et de la matzah de la sortie d'Égypte. Parce que là-bas, il y a marqué les matzot. Il faut garder les matzot pour qu'elles ne deviennent pas chametz. Mais là, j'aimerais traduire les mitzvot, pas seulement les matzot. La matzah, c'est un exemple. C'est dans la mitzvah. Lorsqu'il y a une mitzvah, lorsqu'il y a un acte à accomplir, lorsqu'il y a une attitude à avoir, il ne doit pas avoir de calcul. Si c'est bon pour maintenant, c'est que c'est pas bon pour après. Si c'est bon pour après, c'est que ça n'a pas d'importance maintenant. Un jour, un garçon est venu chez moi pour se convertir. Il dit, j'aimerais bien me convertir au judaïsme parce que je veux me marier. Bon. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais médecine. Je lui dis, ça va être difficile d'observer les mitzvot avec l'internat. Il dit, c'est pour ça que je voudrais savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire ça en deux temps? Comprenez? Faire en deux temps, ça veut dire que c'est toi qui disposes de la chose. Si ça t'inspire, alors tu n'as même pas assez de temps pour le faire. Mais ça ne peut pas être fait en deux temps. C'est une notion qui nous est étrangère parce qu'on s'habitue à tout calculer et à tout programmer. Mais la mitzvah demande cette notion qui n'a pas de référence par rapport au temps. C'est que lorsqu'il y a l'investissement entier de la personne dans quelque chose, alors on ne peut pas le gérer dans le temps. Si on le gère dans le temps, c'est qu'on obéit à des contingences qui sont extérieures à la personne. Lorsque je veux absolument faire quelque chose, si je ne le fais pas maintenant, c'est parce que je suis lié. Mais si j'étais libre, je ne regarderais pas le temps. La notion de mitzvah, c'est une interpellation qui existe entre Dieu et l'homme et qui ne peut pas être lié à la notion de temps. Yonagenu almut, almut ça veut dire au-dessus de cette notion-là que j'ai une essence et il y a des choses qui passent avant, des choses qui passent après. On devrait même pas dire Almut, on devrait dire au-dessus de la vie. Mais on dit au-dessus de la mort parce que ça dépasse cette idée-là. Parce que ça fait que la mort, j'ai le temps pour moi. Je ne suis pas pressé à faire des choses où je dois toujours, moi, avoir une échéance. On fait comme s'il n'y avait pas cette échéance. Ou une agenoualou, tu vis éternellement. Ne pense pas à cette échéance-là. Si tu ne penses pas à cette échéance-là, les choses elles vont être relativisées d'une façon qui est extraordinaire. La Torah se pose à pouvoir conduire la personne Almut. Almut, ça veut dire, si on veut le traduire exactement, au-dessus de l'idée de l'échéance. Toutes les contraintes que je peux avoir dans la vie, je dois les faire passer après la contrainte de la mitzvah elle-même. Parce que sinon, c'est que je raisonne avec des échéances, c'est que je mets quelque chose qui ne devrait pas être un frein, ça devient un frein. Souvent on dit chez nous, la religion c'est pour les vieux. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un moment où la vie, ça n'est plus un temps qu'on compte et il n'y a plus d'échéance. Alors à ce moment-là, tout d'un coup, on se libère et on commence à voir les choses autrement. Mais vieux et jeune, ça n'est qu'une question de conception, ce n'est pas une question d'évolution. Vous savez qu'en hébreu, un zaken, c'est un sage, ce n'est pas un vieux. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on l'appelle vieux? Appelle le sage. Pour te faire comprendre que par son raisonnement et par ses conceptions, on peut faire la même démarche qu'un vieux. On n'a pas besoin de se cogner à toutes les portes pour trouver l'entrée. On peut bien calculer et on peut voir tout de suite où est l'entrée. À partir du moment où on arrive à raisonner comme ça, on comprend pourquoi l'autre est attiré. Parce que maintenant, on n'est plus victime de quelque chose qui vous presse et qui vous dit « Oula, il y a tant et tant de temps pour faire tant et tant de choses. Ça, tu es obligé de le faire. Ça, tu es obligé de le faire. » C'est que les limites, elles ont été reculées. Almut. On est au-dessus de la limite des échéances. Alken alamot aivucha, c'est le guerre, c'est l'étranger qui vient pour devenir juif. C'est qu'il veut repousser ça. Ce qu'on a réduit à une civilisation, à une morale, en vérité c'est beaucoup plus que ça. Vous dites la morale judéo-chrétienne, le don de la Torah, les lois, les choses comme ça. Paradoxalement, les lois sont faites pour pouvoir échapper aux contraintes de la vie. Et pourtant c'est des lois, vous allez me dire, c'est à l'intérieur. Non, parce que la mitzvah se pose en dehors de ces contraintes-là. La loi chez le peuple juif, elle est toujours en termes de mitzvah. Elle n'est jamais en termes de loi. La loi, c'est les chachamim qui la font. Ça n'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu ne donne que les mitzvot. Des lois pour régir la société, c'est le travail des chachamim. Shoftim veut shotrim. Tu es obligé d'avoir des juges et tu es obligé d'avoir une police. La loi, c'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est une interpellation de la personne. Tout le monde n'est pas capable de vivre et de mettre en cause toute sa vie à chaque instant. Mais l'idéal, c'est celui-ci. C'est qu'au moment où tu fais quelque chose, il n'y a rien qui est aussi important et dont ta vie ne dépend que de cette chose-là. Pour nous, c'est très difficile parce qu'on gère et puis on dit il faut être intelligent. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une expression que l'on trouve dans toutes les philosophies en tant que quelque chose qui est rejeté. mais qu'on trouve paradoxalement dans la Gemara en tant que quelque chose qui est estimé. On va vous dire, réjouis-toi, profite de la vie, achol ve château, mange et bois, kimachar namout. Parce que demain on va mourir. Profite, après il n'y aura plus rien. Partout on vous dira, ça c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, mange et bois parce que demain tu ne seras plus là, c'est une bêtise. Ok. Depuis la philosophie grecque jusqu'à la philosophie hindoue, on vient de dire, ah, c'est pas du tout ça, vous n'avez rien compris, ça n'a aucun intérêt, il faut se détacher de la vie, il faut tout rendre à contrat. Ok. Paradoxalement, les chachamim viennent dire, achol ve château ki machar namout. Mange et bois parce que demain tu vas mourir. Bah, à qui ça s'applique? À Rabbi Chia. Rabbi Chia, la Gemara, dans le traité de Talent, il raconte une histoire. Et dans le Midrash, j'ai encore une deuxième histoire. La deuxième histoire est encore plus paradoxale. Je ne vais pas la raconter, je vais raconter seulement la première. Rabbi Chia, chaque fois que les gabaïs de Tzedaka, chaque fois que les gens qui allaient pour ramasser de l'argent pour la Tzedaka, le voyaient, ils fuyaient. Parce que c'était connu qu'il prenait tout l'argent qu'il avait dans les poches et il le donnait. Alors une fois que sa femme est venue réclamer, elle a dit que c'est moi qui vais donner la Tzedaka, c'est plus Rabbi Chia. Chaque fois qu'il le voyait, il s'écartait de lui. Un jour, Rabbi Chia les a poursuivis et leur a dit, « Mashbiotrem, je fais le serment, que je ne bouge pas d'ici, je fais ce que vous me dites, pour qui vous ramassez ?» Ils lui ont dit, « Yatom v'yitoma, un orphelin et une orpheline qui vont se marier, on ramasse de l'argent pour eux. » Il a dit, « Ça tombe bien, j'ai l'ado de ma fille, j'allais acheter quelque chose pour elle, je vous le donne. » Il a tout donné. Il était embêté quand il est revenu à la maison. Parce que sa fille attendait. Qu'est-ce qu'on fait? Il a pris une gerbe de blé, il l'a jetée dans la grange. Sa femme et sa fille sont allées voir dans la grange. Elles ont vu que la grange était en train d'exploser tellement il y avait de blé. Elles sont venues et nous ont dit, « Ma senissim raïlukan, on a vu un S, on a vu un miracle. » Avec ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Il a dit à sa fille, En lach, Ela, que Ani Hashem Israël. Cet argent-là, il appartient aux pauvres, et toi, tu auras exactement la même chose que ce que les pauvres reçoivent. Ça, c'est l'histoire que la Gemara dit à propos de Rabbi Chia. Si vous regardez les Kitfé Rabbi Israël Salanter, il dit, c'est ça ce qui a marqué, Achol ve château ki machar namout. Mange et bois parce que demain tu vas mourir. Vous voyez déjà que le mange et bois parce que demain tu vas mourir, il n'a pas exactement le même sens que il avait dans la première proposition. Ça veut dire quoi? Almut, tu ne sais pas pour combien de temps tu en as. Alors fais tout ce que tu peux faire à l'instant. Demain, qui dit qu'à demain? Ça devient même paradoxalement le contraire. Ça veut dire que je dois pouvoir mettre tous mes yeux dans le même panier. D'ailleurs, on ne peut pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, et on ne peut pas vivre tout de suite comme ça. Mais on n'a pas besoin d'être un tzaddik dans tout, et en même temps pour tout. On peut l'être dans certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut s'habituer à cette notion qui est profite de l'occasion qui t'est donnée. Parce que comme ça, tu vas échapper au problème de avant, après, derrière, devant, combien de temps, quoi, comment. Maintenant, tu vis toute ta vie en même temps. Almut, on a dépassé le problème. C'est extrêmement difficile de vivre comme ça. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement facile. Parce qu'on n'a plus aucune contrainte. Le Maharal de Prague dit, il n'existe de liberté que chez le pauvre. C'est vrai que le SDF, il n'a jamais de problème de femme de ménage. Il est libre de beaucoup de contraintes. Sinon, d'un côté, il en a qui sont extrêmes. problème, c'est de savoir comprendre ça. C'est que l'attachement aux choses fait que je suis obligé de tout programmer et je deviens victime des choses. Si un jour j'ai l'occasion, voilà, j'ai besoin de penser à rien, je suis entièrement libre, je suis au-dessus de tout. La mitzvah, elle se pose dans ce sens-là. C'est pas que ça donne un sens à la vie, c'est que c'est ça la vie. Le reste, c'est pas la vie, c'est la mort. Puisque je ne fais que penser en termes de mort. Et combien de temps, et pour combien de temps, et que je vais faire avant, et après, après. Ça veut dire que ce qui me dirige, c'est la mort. Ou une aguine ou almout. Dépasse ce problème-là. Tu oublies. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis tellement bien avec les tefillines que j'oublie d'aller au bureau. Et donc c'est pour les vieux. Il n'est pas retraité, il ne peut pas se permettre ça. Il en reste qu'on doit au moins s'habituer à une chose. Que quand on a les tefilines, ne pas penser être au bureau. Ça on peut faire. Alors on a déjà gagné ça aussi. C'est-à-dire qu'un homme peut s'investir dans ce qu'il fait au point qu'au moment où il le fait, c'est quelque chose entre lui et le bon Dieu. Les contraintes sont parties. Celui qui n'a pas goûté cette liberté-là, il n'a rien goûté. Il n'a pas compris. Dans l'étude, c'est encore plus fort. Ça veut dire que il y a une façon de vivre qui fait appel au spirituel et qui est vrai qu'il gêne le matériel. C'est vrai que ça perturbe les calculs qui font que je suis à l'intérieur du temps et que je suis obligé de gérer parce que je n'ai pas le temps indéfiniment. C'est vrai que ça perturbe. Mais c'est des occasions d'une vraie vie où on a dépassé le fait que la vie c'est une échéance et qu'elle est mesurée par le temps. Ça c'est le sens de la mitzvah. Mitzvah bal yadcha al tach mitzena. Ne la laisse pas devenir hametz. N'attends pas. Attendre, c'est pas seulement faire vite. C'est que la vitesse, ça fait que c'est échapper à ce qui est compté dans le temps. C'est ça le sens à la botte. À la botte, ça veut dire almout. Lorsqu'une jeune fille s'éprend de quelqu'un, il n'y a plus de compte. Il n'y a plus de temps. En France, on dit à la vie, à la mort. À la vie, à la mort, ça veut dire que ça ne dépend pas de la vie. C'est ce qu'on veut dire. On ne veut pas dire à la mort. Mais à la vie, à la mort, ça veut dire que ça ne doit pas être soumis aux contingences. Lorsqu'il y a marqué ici « Alken alamot aivucha » qui est-ce qui est attiré par ça? C'est quelqu'un qui est capable d'avoir dépassé ce phénomène. La vie, ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Heureux, pas heureux, ceci, cela. Attention, il ne faut pas non plus résumer la Torah à une espèce de romantisme sentimental, Meyerling. C'est pas ça le problème. Il faut garder les données claires. Mais il en reste qu'il y a un peu de ça. Dans le mauvais...